Dank der beiden Gäste, Mokhtar Danyayeh und Emmanuel Mbulela, die beide Medico International durch ihre Arbeit schon lange verbunden sind, werden wir im Folgenden nun genauer beleuchten, wie sich diese Kriminalisierung von sogenannten Schleusern in Niger abgezeichnet hat und wie sie in Marokko sowie in Mauretanien stattfindet. Mokhtar Danyayeh ist Gründungsmitglied und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Alarm von Sahara. Die Organisation rettet Menschen aus der Sahara und dokumentiert diese Fälle, um Aufmerksamkeit auf die Geschehnisse in der Wüste mit besonderem Fokus auf den Niger zu legen. Schön, dass du da bist. Emmanuel Mbulela hat gemeinsam mit der Selbstorganisation Kongoleser Migrantinnen, ACHCOM, in Marokko ein Rasthaus für Migrantinnen im Jahr 2015 eröffnet. In dem Rasthaus in Rabat gibt es Schlafplätze für etwa 30 Frauen und ihre Kinder. Er leitet das Projekt und beobachtet seit Jahren dabei bei seinen Besuchen in Marokko eine Verschlechterung der Situation für Migrantinnen in diesem Land. Ich freue mich auch, dass du da bist. Mokhtar, im Niger wurde im Jahr 2016 auf Druck der EU und auch mit Geldern der EU das Gesetz 2015-036 eingeführt. Von einem Tag auf den anderen wurden Jeepfahrer aus der nordnigerischen Stadt Agadez zu Schleusern und wurden damit kriminalisiert, teilweise auch inhaftiert. Kannst du beschreiben, mit welcher Begründung dieses Gesetz einerseits eingeführt wurde und andererseits, welche Konsequenzen das für die Menschen vor Ort, aber auch für die MigrantInnen vor Ort hatte?
Tout d'abord, je voudrais vous saluer tout le monde. Merci d'être là pour nous écouter. Je voudrais aussi remercier l'Université Tübingen pour nous accueillir aujourd'hui. Et aussi, c'est une occasion de remercier notre partenaire Medico, qui ne se fatigue pas, en tout cas, de nous accompagner depuis quelque temps dans la lutte que nous menons, et vous toutes qui êtes là. Et pour toutes les personnes qui sont contribuées pour organiser cette journée, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou c'est vraiment bien réfléchi et choisi, c'est qu'aujourd'hui, 12 novembre, ça fait exactement 9 ans que le sujet de prendre le Niger comme point stratégique a commencé. Et c'était le 12 novembre au sommet de la Valette. Donc vraiment.
Also ich werde jetzt erstmal die Gelegenheit nutzen, um mich hier zu bedanken, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und auch Dank an die Uni, dass wir hier in den Räumen der Universität sein dürfen. Und vielen Dank für alle, die hier die geholfen haben bei der Organisation. Es ist vielleicht ein Zufall, aber am 12.11., genau am 12.11. vor 9 Jahren, wurde in Niger der à la Valette, wurde in La Valletta auf Malta eben über den Niger gesprochen und gab es diese Kriminalisierung der Schlepper.
Alors en effet, au sommet de la Valette, le Niger a été choisi par l'Union européenne et ses États membres comme un pays qui doit servir de garder les portes et de mettre une barrière pour les personnes qui bougent du sud vers le nord, tout en sachant que le Niger est un carrefour de migration depuis l'histoire. Ils ont mis des fonds et de soutien technique pour mettre des outils pour empêcher les gens de partir. Et justement, l'outil principal, c'est cette loi 2015-036.
Also auf diesem Gipfel in La Valletta wurde eben der Niger auserwählt sozusagen als ein Land, das Europa helfen sollte, die Flüchtlingsströme, die von Süden nach Norden gehen, zu stoppen. Und dabei hat man vollkommen außer Acht gelassen, dass gerade der Niger eine historische Kreuzung ist, also dass da schon seit Jahrhunderten die Menschen hin und her reisen und dass dieses Land weder die Mittel noch sonst irgendwelche technischen Voraussetzungen hat, diese Aufgaben, die dafür für Niger vorgesehen waren, zu erfüllen.
Donc cette loi, dans son implémentation abrupte, comme je disais, n'a pas tenu compte de la réalité des mobilités circulaires et des migrations saisonnières qui existent dans la région. Ça a amené beaucoup de conséquences sur la vie des personnes, donc des conséquences économiques, des conséquences sur les droits des personnes pour la mobilité et des conséquences sur la vie des personnes.
Dieses Gesetz, das 2015 da erlassen wurde, das ist Gesetz 36036, das wie gesagt überhaupt nicht die Realitäten anerkennt, nämlich dass es hier saisonale Wanderungen gibt, hat große Konsequenzen gehabt, wirtschaftliche Konsequenzen, Konsequenzen, die die Rechte, die Freiheitsrechte, die, das Recht auf freie Bewegung, dieser Menschen bedeutet hat.
Donc les conséquences sur l'économie, comme je dis, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes là-bas historiquement travaillent dans la mobilité humaine, les transporteurs, des guides. Donc au jour du jour au lendemain, dans l'application de cette loi, ils ont perdu leur boulot. Ils ont perdu aussi leur liberté parce que l'application de cette loi a fait emprisonner plusieurs personnes. Et aussi les conséquences sur la vie des personnes, le fait de mettre cette loi en pratique, au lieu que les personnes prennent les routes principales qu'elles prennent auparavant, elles sont obligées de chercher à éviter les points de contrôle, et ce qui a amené beaucoup de disparitions et beaucoup de décès dans le désert nigérien.
Und es hat also wirtschaftliche Gründe gehabt, denn traditionellerweise arbeiten sehr viele, vor allem jüngere Leute, in der menschlichen Mobilität. Das heißt, alles, was mit Transport und Unterkunft von Menschen zu tun hat. Und in dem Moment, in dem die kriminalisiert worden sind, in dem die gefangen gesetzt worden sind, haben sie also sowohl ihre wirtschaftliche Grundlage wie auch ihre Freiheit verloren. Das hat noch dazu geführt, dass die Leute, die sonst auf den Hauptrouten unterwegs waren, versucht haben, die Kontrollpunkte zu vermeiden und deswegen in die Wüste gegangen sind, was zu vielen Todesfällen und Verschwinden von Menschen geführt hat.
Cette loi toujours dans la stratégie européenne, si je peux dire, pour bloquer les personnes en mobilité, elle était mise en place pour dire de lutter contre le trafic illicite des migrants. Mais malheureusement, dans son implémentation, ça n'a servi qu'à criminaliser les activités ou les services qui sont liés à la migration.
Und dieses Gesetz, das also vorgegeben hat, dass Menschenhandel unterbunden werden soll, und hat eigentlich dazu geführt, dass die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, blockiert worden sind und kriminalisiert worden sind.
Et pour revenir au sommet de La Valette, comme je dis, pour préciser, pour expliquer réellement que c'est de la volonté des politiques européennes, c'est qu'au niveau du sommet de La Valette, il a été dégagé des fonds pour aider le Niger à mettre en place cette criminalisation. Donc, c'est au moins, je dirais, par exemple, un chiffre de 30 millions d'euros qui ont été investis à un moment pour l'implémentation pratique de cette loi. Et il y a au moins 10 millions d'euros qui sont partis, par exemple, dans les équipements et des formations. Et quand je dis les formations, c'est les formations policières ou militaires pour le contrôle des frontières. Et au moins, je dirais, 20 millions pour renforcer l'appareil judiciaire du Niger. Donc, pour voir que, en fait, tout l'aide ou tout l'argent qu'on soi-disant dit est mis pour renforcer le contrôle, la militarisation, la judiciarisation et donc finalement pour nous, on dirait la criminalisation de la migration et des services qui sont liés à la migration.
Und damals in La Valette, 2015, wurden auch Gelder dafür also freigemacht. 30 Millionen Euro sind in den Niger geflossen. Davon sind 10 Millionen in die Ausbildung, also Ausbildung von Polizei, von Militär für die Kontrollen. Und 20 Millionen, um den Justizapparat fit zu machen, also im Prinzip 30 Millionen, um die Migration zu kriminalisieren.
Ja, vielen Dank schon mal für die Ausführungen. Du hast jetzt gesagt, das Gesetz wurde 2023, also im letzten Jahr, abgeschafft. Das gibt's nicht mehr. Also unter der aktuellen Transitionsregierung Heißt es also, dass jetzt alle Menschen nun wieder von Niger aus Richtung Algerien, Libyen frei migrieren können? Oder wie zeigt sich jetzt die aktuelle Situation? Wie zeichnet sich die ab?
Oui, en effet, cette loi a été abolie le 26 novembre 2023 suite à la prise du pouvoir des nouvelles autorités. Et quand elle a été abolie, pour nous, c'était une joie d'un côté, un plaisir, parce que je devais noter que nous luttions fortement contre cette loi, parce qu'avec des organisations partenaires et camarades, nous étions jusqu'à mettre une plainte au niveau de la cour de la CEDEAO contre l'application de cette loi. Et donc, quand le régime actuel a aboli cette loi, on était vraiment très content de l'abolition parce que c'est la fin de quelque chose que nous luttions contre depuis quelque temps. Et actuellement, au Niger, on peut être satisfait que les gens ne sont pas persécutés ou réprimés par une loi contre la migration parce que la loi 2015-36 a été abolie ou abrogée. Donc, il y a la possibilité aussi pour les personnes de bouger et des transporteurs aussi de reprendre des activités de la mobilité en allant vers le nord. Et une chose aussi très importante, c'est que les centaines de personnes que j'avais mentionnées qui ont été arrêtées pendant l'implémentation de cette loi, elles ont été toutes libérées. Donc, on peut saluer cette abrogation, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, quand on regarde ce qui se passe, c'est que le démon des politiques contre la mobilité humaine, il crée aussi d'autres stratégies. Parce que depuis qu'on a cru que le Niger a aboli et a abrogé cette loi, il y a eu, où on peut voir directement, la pression ou le renforcement sur les pays plus au nord, au Maghreb, notamment en Tunisie, au Maroc, peut-être la Mauritanie, où maintenant c'est là-bas que la pression est beaucoup plus. Donc les gens peuvent partir, mais malheureusement, ils sont encore plus réprimés, plus criminalisés, plus...
Also auf der einen Seite ist es eine sehr große Freude für uns, dass am 26.11.23 dieses Gesetz abgeschafft worden ist. Wir haben sehr stark dagegen gekämpft und waren auch vor dem ECOWAS-Gericht in Afrika. Und deswegen sind wir froh, dass dieses Gesetz abgeschafft worden ist. Und ja, das Transportgewerbe kann wieder arbeiten. Es gibt eine freie Bewegung ist möglich. Und ganz wichtig, hunderte Gefangene, die in den Gefängnissen gesessen haben, sind alle frei. Aber auf der anderen Seite ist dieser Dämon, der die Mobilität der Menschen kriminalisiert, immer noch da. Und es werden immer wieder neue Strategien ausgearbeitet. Und der Druck hat sich jetzt einfach nach Norden verlagert. Das heißt, in die Länder des Maghreb, in Tunesien, Libyen, Mauretanien und so weiter. Und die Leute kommen eben bis dorthin und erleben dort noch viel größere Repressionen als vorher.
Donc voilà, la répression est plus au nord, donc les personnes peuvent traverser le Niger, mais malheureusement encore plus au nord, ils sont beaucoup réprimés, beaucoup criminalisés, et à la fin encore, c'est que ça revient encore vers le Niger, parce que tout simplement, il y a ces chaînes de déportation ou de pushback qui se font actuellement, qui commencent souvent par la Tunisie, qui poussent les gens dans le désert entre la Tunisie et l'Algérie, ensuite l'Algérie aussi à son tour qui les pushback, qui les envoie aussi dans le désert au Niger, ce qu'on documentait depuis quelques années, et en même temps de l'autre côté de la Libye aussi, donc voilà un peu comment ça marche. Et on n'est pas sorti, si je peux dire, malheureusement, de l'auberge où on n'a pas trouvé vraiment la solution contre la répression, contre les personnes en mobilité et les services ou les personnes en solidarité.
Ja, also leider ist es überhaupt nicht besser geworden. Die Leute kommen eben jetzt dorthin bis in die nordafrikanischen Länder und dann werden sie aber zurück ausgewiesen. Es gibt diese Pushbacks, die Leute werden in die Wüste deportiert. Also ob das jetzt in Algerien, Libyen oder in Tunesien ist, in diesen ganzen Ländern und dann kommen sie wieder zurück in den Niger.
Genau, du hast jetzt schon angesprochen, dass die Situation in den Maghreb-Staaten sich verschärft. Du beobachtest ja auch ja, die Situation, die politische Situation in Mauretanien. Dort wurde im April 2024 ein Deal mit der EU abgeschlossen, der so heißt, die EU gibt Mauretanien 210 Millionen Euro und im Gegenzug halten dann die mauretanischen GrenzpolizistInnen Menschen davon ab, den Atlantik zu den Kanarischen Inseln zu überqueren. So heißt es zumindest im Deal. Und kürzlich wurde auch im September diesen Jahres im Zuge dieses Deals ein Gesetz in Mauretanien eingeführt oder verabschiedet, demnach sogenannte Schleuser verfolgt und inhaftiert werden sollen. Kannst du mehr zu diesem Gesetz sagen und was eigentlich das in seiner Umsetzung eigentlich bedeutet für Menschen und MigrantInnen in Mauretanien und von Mauretanien ausgehend?
Pour cette question, j'ai déjà mentionné la, la mise, le fait de mettre plus l'effort sur les autres pays qui sont au nord du Niger. Donc effectivement, la Mauritanie faisant partie. Il est important aussi de souligner que les pays du Maghreb, de manière générale, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire, c'est déjà il y a quelques années auparavant, avant même que cette criminalisation vienne au Niger, c'était d'abord dans ces pays maghrébins. Mais comme l'Union européenne voit que peut-être cette stratégie ne marche pas, donc elle est allée plus au sud, au Niger, et maintenant ça perd le Niger et ça revient encore vers le nord. Donc c'est important de voir la façon dont cette externalisation est un peu élastique aussi du côté des politiques européennes. Alors, en Mauritanie, pourquoi je dis ça, c'est que c'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps déjà qu'il y a l'existence de cette coopération avec l'Allemagne, avec l'Espagne, mais c'est presque la même chose parce que c'est l'Union européenne, et avec l'Espagne, parce qu'il y a la présence même de la police espagnole sur le territoire mauritanien, toujours dans ce cadre de la lutte contre la soi-disante migration irrégulière. Donc, récemment aussi, il faut préciser que ce n'est pas automatiquement, directement, plutôt la loi, mais c'est un projet de loi qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale, disons, pour renforcer ou pour contrôler mieux les frontières mauritaniennes face à ces passages ou à ce transit des personnes. Et cette loi, toujours aussi, comme ça a été le cas du Niger, on sent bien que c'est l'influence européenne, le soutien financier et technique qui apporte cela. Vous avez parlé d'un accord de 210 millions d'euros récemment. Donc on voit automatiquement que c'est plus il y a ces accords, plus des outils ou des cadres légaux se créent contre la migration.
Ja, also es ist so, dass es leider nicht erst seit jetzt das gibt in den Maghreb-Staaten und in Mauretanien. Man hat nur dann eben die Grenze weiter nach Süden in den Niger verschoben und jetzt geht's wieder nach oben und jetzt ist es in Mauretanien. In Mauretanien gibt's auch schon seit langem eine Kooperation mit Europa. Und diese Externalisierung der Europapolitik, die geht also in so bestimmten Wellen nach Süden und dann wieder nach Norden. Und in Mauretanien gibt es schon seit einiger Zeit spanische Polizei, also hat gesagt, und das ist, also Spanien, Deutschland will das, Spanien, aber ist egal, ist sowieso das Gleiche. Und in Mauretanien hat jetzt die Assemblée Nationale ein Gesetz verabschiedet, das die Grenzkontrollen verstärkt. Und natürlich ist es unter europäischem Einfluss entstanden. Genau wie beim Niger hat man dann einfach Geld in die Hand genommen und technische Unterstützung zugesagt. Also das sind eben diese 210 Millionen.
Parce qu'il y a eu déjà un projet qui avait fini en 2023. De la police espagnole et aussi de l'office mauritanien pour la lutte contre la traite des personnes et autres. Et que dans ce projet, il y a eu beaucoup d'interventions où on parle de pas moins de 24 affaires au niveau du procureur et à peu près 162 membres de réseau arrêtés ou qui sont sous enquête, et 17 réseaux de passeurs qui ont été démantelés. Donc vous voyez, c'est juste quelques chiffres pour démontrer qu'il y a cette criminalisation, il y a comment ça se fait. Parce que c'est difficile aujourd'hui de trouver seulement des passeurs ou des soi-disant des personnes qui font la traite d'autres personnes, parce que la mobilité, comme elle est dans nos pays, qui est quelque chose de naturel entre les gens, ou cette solidarité qui est là, souvent beaucoup de personnes tombent dans les mailles des policiers, être qualifiés de passeurs, alors qu'ils se sont ou ils étaient juste en solidarité pour leurs compagnons. De même, de l'autre côté, on n'exclut pas qu'il y a des réseaux criminels. Il y a des réseaux qui font de la traite, si vous voulez, des personnes. Mais malheureusement, c'est la criminalisation de l'activité qui fait beaucoup créer d'autres réseaux criminels. Et ça, parce que la criminalisation de la migration n'empêche pas les personnes de vouloir se mobiliser, de bouger.
Also 2023 gab es dann nochmal ein extra Abkommen zwischen der spanischen Polizei und der mauretanischen Polizei. Und es gibt also inzwischen 24 Verfahren, die anhängig sind. Und es wurden, wie so gesagt wurde, 17 Schleusernetzwerke aufgedeckt. Also auch hier sieht man die Kriminalisierung. Und es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die einem helfen bei der Flucht. Und es wird hier eine natürliche Mobilität kriminalisiert. Es wird kriminalisiert die Solidarität zwischen den Menschen, die sich gegenseitig helfen. Und dann kann es sein, dass man anstatt auf jemanden, der einem hilft, auf einen Polizisten trifft. Natürlich gibt es auch kriminelle Netzwerke, die also eine Art eigentlich Menschenhandel machen. Nur ist es so, dass auch durch diese Kriminalisierung der normalen Solidarität eben die kriminellen Netzwerke gestärkt werden. Also so führt eben die Kriminalisierung der normalen Mobilität auch weiter zu kriminellen Netzwerken.
Donc pour terminer, je voulais dire que nous, comme vous l'avez déjà mentionné, notre vision n'est pas d'encourager cette migration ou cette mobilité irrégulière. Ce n'est pas non plus de le décourager. Donc on cherche à ce que les personnes aient ou qu'ils profitent de leur droit de bouger, tout comme c'est facile pour d'autres, qu'on trouve ou qu'on crée aussi des moyens légaux ou des voies légales pour permettre à ce que les gens puissent bouger du nord au sud comme du sud au nord.
Und was wir machen wollen, unsere Vision ist nicht, dass wir irgendwie eine sogenannte illegale Mobilität befördern, aber wir wollen auch niemanden entmutigen. Uns geht es darum, um das Bewegungsrecht, das Recht auf freie Bewegung und dass es legale Wege gibt von Norden nach Süden und von Süden nach Norden.
Emmanuel Mokta hat es schon gesagt, die Externalisierungspolitik der EU kommt so in Wellen. Und das kann man in Marokko, finde ich, ganz gut beobachten. Denn dort wurde schon 2003 ein Gesetz eingeführt, das sogenannte Schleuser kriminalisiert, inhaftieren soll. Und das Ziel dieses Gesetzes war, gegen die sogenannte irreguläre Migration vorzugehen. Also das gab es schon seit 2003 und jetzt sind wir im Jahr 2024 und viele Leute, du sagst es selbst immer wieder, die Lage hat sich eigentlich für Migranten im Land selbst verschlimmert. Kannst du nochmal sagen, wie wird in Marokko gegen sogenannte Schleuser vorgegangen und wer leidet insbesondere unter diesem Gesetz, unter diesen Maßnahmen?
Donc, au Maroc, il y a cette loi, c'est qui s'appelle la loi 0203. C'est une loi qui a avait été voté d'abord dans un contexte particulier, c'est-à-dire que c'était au lendemain de l'attentat terroriste qui s'est produit à Casablanca. Et c'est dans cette ambiance, dans cette émotion que le Parlement marocain va voter la loi 0203 qui criminalise la migration.
2003 wurde in Marokko eben dieses Gesetz verabschiedet, das die Migration kriminalisiert. Und der Kontext war das Attentat in Casablanca, das eben dann das Parlament dazu gebracht hat, dieses Gesetz zu verabschieden.
Donc, selon cette loi, déjà le fait de sortir le Maroc, cela constitue déjà un crime. Donc, si vous sortez au Maroc, il parle de manière clandestine. Donc, comme qui dit que c'est une loi qui condamne déjà les migrations, qui criminalise déjà les migrations. Le fait de sortir seulement du pays, vous êtes déjà considéré comme un criminel ou bien comme... Donc vous êtes déjà considéré comme un criminel.
Dieses Gesetz bedeutet, dass alle, die nach, die also irregulär in Marokko leben, kriminalisiert sind. Also wenn man einreist, ist man kriminell.
Alors, ce qui fait que au Maroc, dans les années 2005, il y avait des rafles qui étaient organisées souvent, et quand on arrêtait les gens, on les expulsait vers Oujda, c'est au niveau des frontières entre l'Algérie et le Maroc. Et quand vous êtes là à Oujda, vous ne pouvez pas remonter à Rabat ou bien à Casablanca, puisque les transporteurs de bus ou des trains ne pouvaient pas accepter de vous prendre dans le train ou bien dans le bus, puisque c'était considéré comme si c'était une activité criminelle de vous transporter.
Und 2005 gab es dann ganz große Razzien und die Leute wurden ausgewiesen nach Algerien und die konnten dann auch nicht mehr über Casablanca, also wieder dann in den Westen kommen, weil das wäre dann wieder die Leute, die sie dann transportiert hätten, hätten sich wieder strafbar gemacht.
Alors, dans les années 2013, je crois qu'il y a eu le Conseil national des droits de l'homme marocain qui a fait un rapport qui détaillait les violences qui étaient exercées sur le migrant. Et ce rapport a été envoyé à Sa Majesté le Roi, qui a pris la décision de régulariser le migrant au Maroc. Ce qui fait qu'en 2013 et en 2017, il y a eu régularisation et il y avait plus de 50 000 personnes qui ont pu avoir la carte de séjour.
Und 2013 hat es dann also von Menschenrechtsorganisationen so viele Proteste gegeben, die bis zum König gegangen sind. Also es ging darum, dass Gewalt angewandt wurde gegen Migranten. Und dann hat der König 2017 50.000 Geflüchtete regularisiert.
Oui, je peux dire que dans ces 50 000, ce n'était pas seulement les migrants subsahariens, mais c'était aussi les Européens, puisqu'il y avait aussi beaucoup d'Européens qui vivaient au Maroc, dans la même situation que le migrant subsaharien, mais qui était libre de circuler. Mais par contre, ce n'était que les subsahariens qu'on arrêtait, qu'on présentait comme des criminels.
Das hat übrigens auch Europäer betroffen. Die wurden natürlich nicht kriminalisiert, konnten sich freier bewegen, aber die wurden dann in dem Zusammenhang auch, deren Situation wurde in dem Zusammenhang auch regularisiert.
Mais après la régularisation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la situation que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Je peux dire que nous sommes rentrés à la case du départ, puisque depuis 2018, la situation s'est aggravée au Maroc. Au moment où nous parlons, il y a des policiers qui sont en civil, des policiers qui sont avec des motos, avec des fourgonnettes, qui commencent les arrestations à partir des 10 heures. Donc 10 heures déjà, ils sont largués partout. Même si vous sortez pour jeter la poubelle, dès que vous avez la peau noire, puisqu'il faut que je le dise, dès que vous avez la peau noire, donc ils doivent vous demander les papiers. Si vous n'avez pas de papiers, on vous arrête. Et ces arrestations, quand vous êtes arrêté, on vous amène d'abord au niveau des maisons du quartier, où il y a des commissariats là-bas, de la police au niveau du quartier. On vous met là-bas. Et à partir de 20 heures, on ramasse maintenant dans tous les quartiers, on ramasse tous les migrants qui sont arrêtés dans les différents quartiers de Rabat ou de Casablanca. Donc, on les ramasse et on les amène maintenant au niveau des commissariats centrales. Et là-bas, les migrants sont filmés, ils sont photographiés, on prend des empreintes et on les met dans de grands bus pour aller les refouler à Ben Melil. Ben Melil, c'est une ville marocaine où ils sont jetés comme ça dans la nature, en pleine, donc dans la nuit, c'est souvent entre 2 heures du matin, on les laisse là-bas, en pleine, donc dans la nature, en pleine route, que ce soit pendant l'hiver ou pendant l'été, les gens sont abandonnés comme ça.
Und jetzt ist die Situation wieder eigentlich so schlimm wie damals. Also wir sind jetzt wieder an den Anfangspunkt zurück. Und es ist, die Situation hat sich total verschärft in Marokko. Zivilpolizisten fahren mit Motorrädern ab morgens 10 Uhr durch die Stadt und die greifen dann Leute auf, natürlich am ehesten Leute, die schwarz sind, die eine schwarze Haut haben, und dann fragen sie sie nach den Papieren. Wenn man die Papiere nicht hat, wird man in ein Haus in dem Viertel, wo man aufgegriffen worden ist, eingesperrt. Und dann so gegen 8 fahren die dann, kommen Autos, und dann werden die alle eingesammelt, also in Rabat oder in Casablanca. Und dann kommen sie in so ein zentrales Kommissariat, dort werden sie erkennungsdienstlich bearbeitet, und dann kommen sie nach Ben Miyedis, eine Stadt in Marokko, und dann lässt man sie einfach raus. Also mitten in der Nacht, meistens so zwischen 2-3 Uhr, dann werden sie einfach ausgesetzt, mitten an der Straße und so mit die Natur entlassen. Egal wie das Wetter ist, egal ob Winter, Sommer, vollkommen wurscht.
Donc, la police marocaine est dotée de motos, de bus. Tout ça, c'est avec l'argent de l'Union européenne. Et cet argent, ça vient d'où? C'est vous, les contribuables européens, qui donnez cet argent-là. Et je me demande, est-ce que vous acceptez que de tels crimes, que de telles pressions, de telles violences soient effectuées, soient faites en votre nom?
Und diese Motorräder und diese Busse, die werden finanziert durch EU-Gelder. Das sind Gelder, die Sie als Steuerpflichtige im Prinzip aufbringen. Also in Ihrem Namen werden hier diese Verbrechen verübt. Sind Sie damit einverstanden? Ist es in Ordnung, dass das mit Ihrem Geld gemacht wird?
Donc, je crois que c'est vous qui avez le pouvoir ici en Europe surtout de demander aux dirigeants de ce qu'ils font avec votre argent, puisque je vous dis bien que la situation est tellement très difficile. Il y a des gens, peut-être on n'en parle pas, mais les gens qui meurent puisqu'ils n'ont pas d'autres choix, ils n'ont pas de perspectives, ils sont obligés de prendre la mer, ou bien il y a maintenant des gens qui meurent non pas parce qu'ils sont allés traverser, mais à cause des dépressions qu'ils font, puisqu'imaginez que les gens ne peuvent plus circuler au Maroc, ils sont enfermés dans leur ghetto, et tout ça, ça crée des pressions. Et nous avons dernièrement, j'étais au Maroc, on a enterré 3 personnes qui sont mortes comme ça à cause des dépressions.
Und Sie haben die Macht, Sie können was tun, Sie können Ihre Regierenden bitten zu sagen, was sie mit dem Geld machen. Und hier in Marokko, es ist so schlimm inzwischen, die Leute, die sehen keine Aussicht, die haben keine Aussicht mehr, und inzwischen ist es so, dass die Menschen sterben. Also sie sehen keinen anderen Ausweg mehr, als übers Meer zu gehen, aber sterben auch Leute einfach so. Also wir haben jetzt 3 Menschen beerdigt, die haben so Depressionen gehabt, dass sie einfach daran gestorben sind, weil sie keinen Ausweg mehr gesehen haben.
Ja, vielen Dank einerseits für den historischen Abriss, wie sich die Situation wellenweise verschlimmert hat für MigrantInnen in Marokko, und andererseits auch nochmal die Betonung darauf, dass die EU, all das mit den Geldern der EU auch nur möglich ist, diese ganzen Inhaftierungen, Abschiebungen, von denen du jetzt gesprochen hast, oder Rückschiebungen. Die EU argumentiert ja nicht nur gegen sogenannte irreguläre Migration vorzugehen, sondern auch gegen Menschenhandel, und vermischt dabei sehr oft die Begriffe Menschenhandel, Menschenschmuggel, und das hat strategische Gründe. Kannst du nochmal die Gründe erläutern, warum diese Differenzierung nicht vorgenommen wird, und kannst du die Differenzierung selbst nochmal vornehmen, gerade weil du ja auch alltäglich damit zu tun hast?
Oui, effectivement, c'est comme Mokhtar l'a dit tout à l'heure, est-ce que des réseaux de traite, ça existe ou pas? Ça existe. Mais cela, par rapport à ce qui se passe maintenant au Maroc, par rapport aux arrestations, par rapport aux expulsions, je crois qu'il y a la confusion entre la traite aussi, donc la traite d'êtres humains et les trafics de migrants. Effectivement, par rapport au travail que nous faisons, nous accueillons aussi des personnes qui sont venues au Maroc, qui étaient dans des réseaux dans des réseaux de traite humains, mais qui sont parvenus à fuir et qui viennent dans notre maison d'accueil où nous les accueillons. Mais pour le moment, je peux dire que la plupart des personnes qui sont arrêtées ou bien la plupart des personnes qu'on expulse, c'est avant tout des migrants, des gens qui sont venus pour pouvoir traverser, qui cherchent à traverser, des anciens migrants qui sont là, du fait qu'ils ont fait beaucoup de jours, donc beaucoup d'années au Maroc, ils ont l'information et c'est cette information qu'ils arrivent à donner aux nouveaux migrants qui arrivent. Donc, pour l'Union européenne, c'est ça ce qu'ils appellent traite d'êtres humains. Le fait d'aider, avec l'information. L'information ou bien le fait que les migrants qui viennent d'arriver, les accueillir, leur montrer comment ils peuvent s'égreffer dans la société, comment ils peuvent trouver où dormir. Donc pour eux, ça devient la traite d'êtres humains.
Ja, Mokhtar hat es ja schon gesagt, dass also das unter, dass das immer wieder vermischt wird, mit Absicht vermischt wird. Und er hat, Mokhtar hat auch vorher gesagt, natürlich gibt es Menschenhandel. Natürlich gibt es illegale Schleuser. Das gibt's selbstverständlich. Und wir haben auch in unserem Haus, haben wir auch Frauen aufgenommen, denen es gelungen ist, aus diesen Strukturen zu fliehen. Aber man muss ganz klar sagen, dass der Hauptteil der Menschen, die von den Verhaftungen betroffen sind und die ausgewiesen werden, die deportiert werden, dass der Hauptteil dieser Menschen einfach Migranten sind. Und es wird oft vermischt, auch hier in Europa. Man spricht von den Menschenhändlern. Und welche Menschen meint man damit? Das sind die Leute, die als Migranten schon länger in Marokko leben, die schon früher angekommen sind und die den Neuangekommenen helfen, die ihnen sagen, wo sie schlafen können, wo sie was zu essen bekommen, wie sie sich in die Gesellschaft integrieren können. Und diese, also wie es läuft einfach. Und diese Menschen werden auch einfach von europäischer Seite als Menschenhändler bezeichnet. Das ist falsch.
Donc, les migrants, peut-être qui organisent des voyages avec des pneus pneumatiques. Oui, avec des pneus, donc oui, avec des pneus gonflables pour aider les gens à pouvoir traverser. Oui, ou encore au niveau de l'Algérie, entre les frontières entre l'Algérie et le Maroc, on a creusé un puits de 6 mètres de hauteur et de 4 mètres de largeur pour empêcher que les migrants qui viennent de l'Algérie ne puissent pas traverser. Alors, le fait qu'on a creusé cela. Cela a créé aussi d'autres activités, puisque maintenant, il y a deux personnes qui vivent là-bas, qui commencent à construire des échelles pour aider les migrants qui viennent pour pouvoir traverser. Alors, c'est ça, ce type de personnes qu'on arrête et qui sont traitées de traite d'êtres humains.
Oder die Menschen, die zum Beispiel, und du weißt jetzt nicht ganz klar, also die zum Beispiel Reifen, also das Innere von Reifen nehmen, damit die Leute darauf schwimmen können, oder die Schlauchboote zur Verfügung stellen, die werden Menschenhändler genannt. Oder die Menschen, also zur Grenze, an der Grenze zu Algerien wurde eine Mauer gebaut, die ist 6 Meter hoch und 4 Meter breit. Und natürlich hat sich jetzt dort in der Gegend, haben sich jetzt Leute darauf spezialisiert, Leitern zu bauen, mit denen man über diese Mauer steigen kann. Auch diese Menschen werden als Menschenhändler bezeichnet.
En même temps, la question que nous devons nous poser, pourquoi les gens arrivent à prendre toutes ces routes ou bien arrivent à faire cela? Puisque aujourd'hui, je crois que si dans cette salle, parmi vous, si quelqu'un voudrait aller au Maroc ou bien aller au Niger ou au Congo ou encore au Sénégal, je crois que la plupart, on n'a même pas besoin d'avoir les visas pour partir ou bien pour les pays où on demande les visas. Si vous partez, on vous donne les visas. Mais par contre, si quelqu'un veut quitter l'Afrique pour venir en Europe, déjà au niveau de l'Afrique, avoir les visas, c'est un problème. Et tout ça, c'est ce qui fait que ça fait créer de ce qu'ils appellent aujourd'hui des réseaux ou bien des passeurs. Parce que je ne crois pas que quelqu'un qui peut aller à l'ambassade avoir les visas ou bien quelqu'un qui peut passer facilement peut encore recourir à quelqu'un, les soi-disant passeurs, pour pouvoir venir. Et je vais vous donner l'exemple. Je suis arrivé au Maroc en 2008 et permettant en 2004. Et à l'époque, pour voyager, ceux qui organisaient les voyages, c'était jusqu'à 300, 500, 600 euros et vous traversez. Mais aujourd'hui, au moment qu'on a durci les conditions. On a fermé les frontières. Les voyages quittaient le Maroc pour entrer en Europe. C'est maintenant jusqu'à 3 000, voire 4 000 euros. Alors que dans les cas normaux, si vous êtes à Tanger pour traverser, aller à Algeciras en Espagne, les bateaux normaux, c'est combien? C'est 50 euros. Et le visa, c'est combien? C'est 80 euros.
Und man muss sich auch überlegen, warum nehmen die Menschen das alles auf sich? Warum müssen sie diese Wege auf sich nehmen? Also wenn wir jetzt, wenn Sie nach Marokko, nach Kongo, nach Senegal oder in Niger gehen, dann bekommen Sie dort ein Visum, ist alles kein Problem, aber die Menschen bekommen keine Visa. Sie bekommen auch keine Visa innerhalb von Afrika. Und es wird dadurch auch natürlich sehr teuer. Als ich 2004, 2008 nach Marokko gekommen bin, wenn ich dann wenn ich dann von Marokko nach Europa gehen wollte, dann hat mich das so zwischen 300 und 600 Euro gekostet. Heute zahlen die Migranten 3.000 bis 4.000 Euro. Dabei kann man mit dem Schiff von Afrika nach Spanien fahren. Das kostet 50 Euro, die Passage, und ein Visum kostet 80 Euro.
Ja, vielen Dank nochmal für diese klare Differenzierung, die du jetzt gemacht hast. Wir haben eigentlich nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte dir noch eine Frage stellen zu deiner Arbeit im Rasthaus in Rabat. Du hast schon gesagt, es sind Frauen aus Netzwerken des Menschenhandels rausgekommen, entfliehen können. Aber kannst du noch einmal wirklich kurz, soweit es geht, erklären, wie die Situation von Frauen auf der Flucht ist, wie sich das in eurer Arbeit abbildet?
Oui, d'abord, je peux revenir un peu pour parler un peu de l'évolution de notre maison d'hébergement. C'est-à-dire que c'était en 2015 que nous avons eu l'idée de mettre en place cette maison d'hébergement. Pourquoi ? Parce qu'on avait constaté que, avec tout ce que je viens de décrire, la situation telle que je viens de la décrire, donc les migrants en général, les hommes comme les femmes, vivaient des situations très difficiles. Mais en même temps, les femmes payaient un double prix de cette situation. C'est ce qui a fait qu'en 2015, nous avons mis en place une maison d'hébergement où nous offrons un logement temporaire et d'urgence aux femmes migrantes et leurs enfants. Actuellement, nous avons 3 appartements et avec une capacité de 30 à 35 personnes, mais vu que la demande est toujours croissante. Nous arrivons à loger jusqu'à 45, voire même 50 personnes dans notre hébergement.
Also, ich habe ja beschrieben, wie es den Migranten in Marokko geht, und Frauen zahlen als Migrantin, als Geflüchtete einen doppelten Preis. Und deswegen haben wir 2015 die Idee gehabt, dieses Aufnahmehaus zu gründen. Und wir können dort in 3 Wohnungen, wir haben 3 Wohnungen dort und haben dort Platz für 30 bis 35 Frauen und ihre Kinder. Momentan ist die Situation so schlimm, dass wir 45, ja manchmal sogar 50 Personen in diesem Haus unterbringen.
Et à part l'hébergement, nous avons mis aussi en place une petite école où nous donnons les cours d'alphabétisation aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent, qui ont des difficultés pour lire et écrire. Alors, nous avons les cours d'alphabétisation que nous donnons. Et à part ces cours, il y a aussi les cours de formation professionnelle. Nous apprenons aux femmes le métier comme la couture ou encore l'informatique. Et actuellement, on vient de monter un projet d'entrepreneuriat, d'une formation sur l'entrepreneuriat solidaire et éthique, avec l'idée de doter aux femmes des outils qui peuvent leur permettre de chercher du travail au Maroc ou bien de monter un petit commerce pour pouvoir se prendre en charge après la sortie de notre maison d'hébergement.
Und wir haben also auch, wir geben denen nicht nur Unterkunft, sondern wir haben auch eine kleine Schule dort gegründet. Dort geben wir Alphabetisierungskurse, weil viele von den Frauen nicht gut lesen und schreiben können. Und wir machen auch Berufsausbildung dort, also Informatik. Aber haben jetzt auch zum Beispiel ein Projekt, wo Frauen geholfen wird, die einen selber ein Unternehmen, also die ein Unternehmen gründen wollen, die dann vielleicht zum Beispiel so ein kleines Handelsunternehmen oder einen Laden oder irgendwas machen wollen in Marokko, damit oder in einem anderen Land, damit sie sich selber unterhalten können.
Alors, dans notre maison, nous accueillons tout le monde et nous recevons les femmes qui étaient dans des réseaux, qui étaient venues au Maroc. Donc, je ne vais pas parler d'une nationalité quelconque, mais il y a des femmes qui sont amenées au Maroc par des réseaux et qui se retrouvent dans ces réseaux-là. Souvent, ils arrivent à trouver une occasion pour fuir, ou bien il y a des femmes qui tombent enceintes et là, on les laisse partir. Donc, elles viennent, on arrive à leur donner les logements. Mais à part ça, il y a aussi d'autres femmes qui sont venues au Maroc pour travailler, puisque maintenant, il y a donc des réseaux de recrutement à partir des pays d'origine, comme en Côte d'Ivoire ou Guinée ou Sénégal. Mais le problème, c'est que quand elles sont recrutées pour venir travailler au Maroc, elles arrivent. Dès qu'elles arrivent, la première chose, c'est quoi? On confisque leur passeport. Et quand on confisque les passeports, on les fait travailler dans des conditions vraiment, dans des conditions d'esclavagisme. Donc, les femmes qui nous accueillent nous disent quoi? Elles travaillaient de 6h du matin jusqu'à 23h. Donc, jusqu'à 23h, c'est-à-dire seulement au moment où la famille va au lit, c'est là que le travail finit. Et à 6h, ils sont obligés de reprendre. Et ce travail-là, ils le font pour quel salaire? C'est 2000 dirhams, l'équivalent de 200 euros. Et ces 200 euros, ce n'est pas seulement pour elles, c'est divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui doit être donnée à la personne qui avait fait le contrat et la femme garde une autre partie. Des fois, il arrive même qu'à la fin du mois, ils ne sont pas payés. On commence à lui donner la liste de tout ce qu'elle a mangé pendant qu'elle était là.
Also diese Frauen, die da zu uns kommen, die sind in den Händen von Menschenhändlern gewesen und wurden auch sexuell ausgebeutet. Und wenn sie dann schwanger geworden sind, dann hat man sie gehen lassen. Es gibt aber auch viele Frauen aus, die erste Gruppe sind Frauen, die geflohen sind, auch vor Krieg unter anderem. Die anderen sind Frauen, die nach Marokko kommen, um dort zu arbeiten. Sie kommen von der Elfenbeinküste, von Guinea, von Senegal. Sobald sie dort ankommen, nimmt man ihnen den Pass weg. Und wenn man den Pass nicht mehr hat, dann ist man ausgeliefert. Sie leben dort also in sklavereiähnlichen Verhältnissen. Oft arbeiten sie in Familien, müssen dann von 6 Uhr morgens bis um 11 Uhr abends arbeiten, bis die Familie eben auch schlafen geht. Bekommen dann dafür vielleicht, wenn sie Glück haben, 200 Euro. Davon müssen sie aber ein Drittel der Person abgeben, die sie vermittelt hat. Und es kann sein, manchmal bekommen sie gar nichts am Monatsende, weil man ihnen dann aufrechnet, was sie gegessen haben.
Wir könnten, glaube ich, noch viel länger hier zusammen sitzen und über die Situation in den drei Staaten, aber wahrscheinlich auch in anderen Staaten sprechen. Ich möchte euch danken für eure Beiträge und vor allem für eure wichtige Arbeit. Für mich wurde aus euren Beiträgen nochmal deutlich, dass einfach eine Systematik dahinter steckt, Migration als irregulär zu rahmen, obgleich innerafrikanische Migration zirkulär stattfindet und einfach zur Normalität gehört und durch diese EU-Externalisierungspolitik zerstört wird oder gestört wird. Und deutlich wurde auch, dass nicht Menschen nicht davon abhält, zu migrieren. Nee, vielmehr, sie entscheiden sich eigentlich dazu, auch viel gefährlicher Routen zu nehmen und auch in Kauf zu nehmen, gar dem Tod entgegenzublicken. Mit dieser etwas ernüchterten Analyse kommen wir zum Ende unseres Gesprächs und ich danke euch sehr und vielen Dank für die unermüdliche Übersetzung. Vielen, vielen Dank. Applaus